Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Venise, 18e siècle, la Sérénissime, c'est ainsi qu'on l'appelait alors, est à son apogée dans le domaine des arts, de la culture et des fêtes. Elle vit ses dernières années en tant que république libre, gouvernée par des ducs élus, les fameux doges de la République. Les fêtes s'y succèdent, la cité connaît une extraordinaire floraison artistique et culturelle, mais aussi une grande liberté de mœurs. Trois noms, trois artistes ont participé au rayonnement de la ville d'art, chacun à sa manière, chacun dans son domaine. Vivaldi, La Rosalba et Casanova, fêtés, adulés, encensés, dont la vie, à l'instar de leur ville, a été un tourbillon de succès, de rires et de fêtes. Mais quand les lampions de la fête s'éteignent peu à peu, que deviennent ces personnalités, ces stars d'une ville mythique? Que deviennent-ils quand la maladie et le grand âge tissent la toile de l'oubli et les rapprochent de la mort? C'est ce que nous dévoile ce roman passionnant, intitulé « Loin de Venise », édité chez Safran, et j'ai le plaisir de recevoir son auteur, Michel Tesser. Michel Tesser, bonjour.
Bonjour.
Alors oui, plusieurs thèmes dans ce roman assez court mais dense, qui justement ces thèmes donnent une grande densité à cet ouvrage. Une époque qui s'achève, une ville qui change de statut. Carrément, qui va changer de statut. Des stars, je dis des stars, mais c'est vrai, qui passent de la lumière à l'oubli, et puis la vieillesse, l'approche de la mort. Je pense qu'il y a tout cela dans votre ouvrage. Peut-être apporterez-vous une note de plus?
Alors, effectivement, vous avez très bien ressenti mon propos, qui était de raconter à la fois trois destin singulier au singulier et un destin collectif qui est celui de la ville de Venise, et plus même que la ville de Venise, c'est un petit peu, c'est tout un siècle qui disparaît et une certaine civilisation européenne qui va disparaître avec ce... Donc il y a ces deux histoires, on pourrait dire en parallèle, oui. Les histoires, une histoire collective et une histoire qui est véhiculée, qui est représentée, on peut dire, par ces trois personnages, ces trois destins.
Alors effectivement, la ville de Venise, on sent que vous aimez cette ville, et c'est vrai qu'elle est séduisante, elle est belle, elle était, mais elle est toujours rayonnante, assez mystérieuse également pour moi.
Absolument, et c'est ce qui m'attache à Venise. Je ne cesse de la parcourir, d'y revenir,
et de la découvrir,
de la raconter. Et chaque fois, vous savez, c'est comme la ville elle-même. Vous poussez une porte, vous entrez dans une petite cour, et là vous découvrez une autre histoire, une autre, et surtout d'autres énigmes de vie, d'autres énigmes, d'autres personnages, d'autres. C'est une ville qui se déploie à l'infini, non pas dans le disons géographiquement, c'est une ville qui est relativement réduite en superficie, mais qui se déploie à l'intérieur.
D'accord. Alors, une république libre, comme je l'ai dit dans mon introduction, mais libre dans tous les sens du terme, finalement.
Encore plus au XVIIIe siècle, oui. Puisque Venise est devenue... au XVIIIe siècle, Venise n'a plus la prépondérance sur mer, a perdu
sur le plan économique.
Sur le plan économique, c'est vraiment la grande décadence. Et c'est devenu vraiment le lieu touristique de l'Europe, et c'est devenu la salle des fêtes et le casino de l'Europe. Et en même temps, avec une espèce de flamboyance artistique, souvent les flamboyances précèdent la fin. Mmh. Et là, c'est vraiment... C'est la Venise, d'ailleurs, qui est restée dans le souvenir, dans l'inconscient collectif. Lorsqu'on dit Venise, alors qu'il y a eu des périodes extrêmement riches, comme la Renaissance, bien entendu, mais on pense toujours carnaval et 18e.
Oui.
Je crois que ce sont les images mythiques, fantasmées, qui se sont inscrites dans l'inconscient collectif.
Et on peut dire qu'il y a l'amour du beau. Le décor lui-même est beau. Je parle de décor, mais c'est vrai que la ville elle-même est extraordinaire. Ses palais, ses doges, c'est magnifique.
La ville est conçue, effectivement, vous avez raison de parler de décor. La ville est vraiment conçue comme un décor de théâtre. Mmh. Euh, et, Et chaque place, pourrait-on dire, est une scène. Il y a quelque chose qui m'avait frappé une des dernières fois où j'étais à Venise. Je rentrais, j'avais le par le Vaporetto, et à un certain endroit, on contournait une série d'églises. Dieu sait si elles sont nombreuses à Venise, et avec ces anges sur les toits, sur les coupoles. Et si on contourne, on s'aperçoit que toutes ces statues merveilleuses, tous ces anges sont soutenus par toute une superstructure de bois, et on voit l'envers du décor. Et c'est là que vraiment ça m'a frappée. J'ai dit, c'est un décor de théâtre, et un décor merveilleux.
D'accord. Et ça, oui, c'est drôle parce que finalement, ils ne font pas regarder l'envers, finalement.
Voilà.
Alors, votre ouvrage transcrit bien l'atmosphère de l'époque dans un milieu privilégié, quand même, très tourné vers les arts, les rencontres, les fêtes. C'était donc la ville au sommet de la réussite. Et alors, vous faites un portrait très drôle, je dirais, pas toujours très drôle, mais quand même, de trois personnalités, de fortes personnalités, d'individus qui ont réussi, qui ont porté haut le flambeau du beau, de ce qui était beau. Enfin, je parle de Vivaldi et également de cette femme peintre et que vous m'avez fait découvrir. Alors, je dois avouer que je ne connaissais pas cette spécialiste des miniatures. Alors, peut-être que les auditeurs le connaîtront, Rosalba Carriera, la Rosalba. Alors après, alors il y a également Casanova qui lui s'est fait connaître pour d'autres choses, mais également il a laissé quelque chose d'assez extraordinaire, c'est son ouvrage.
Bien sûr,
oui,
ses mémoires. Casanova est à la fois très connu et en même temps méconnu.
Oui,
moi, c'est vraiment,
tout à fait.
Je crois que le séducteur, enfin, du moins l'image d'Épinal qu'on a du séducteur, a occulté complètement la qualité de l'écrivain. Or, c'est un formidable écrivain aventurier. C'est un formidable raconteur de voyages.
Il s'est mis à écrire sur le tard, quand même.
Oui. À la demande, d'ailleurs, de son médecin. Il était en pleine déprime dirait-on,
oui,
aujourd'hui. Et justement, voyant toute cette dégradation et à la fois sa propre dégradation physique, son pouvoir de séduction qui diminuait, et puis surtout son exil de Venise, puisque suite à des querelles dont on ne sait pas exactement, on ne connaît pas exactement la teneur.
Oui, puis il avait peut-être des relations avec les femmes et les hommes.
Voilà, il avait des relations tumultueuses, il avait un caractère fort. Donc il se trouve pour la énième fois exilé de Venise. Et donc son médecin du moment, qui était irlandais d'ailleurs, lui conseille de raconter ce qu'il a vécu. Un petit peu, c'était vraiment comme une médecine. Rappelez-vous les bons moments. Et donc je fais dire à un moment donné à Casanova qu'il ouvre ses souvenirs, chaque fois il en ouvre un comme une bonne bouteille.
Oui, voilà. Alors puisque nous allons parler de Casanova, c'est pas le premier dans les récits que vous nous donnez, mais pourquoi pas, parce que justement, alors il a écrit l'histoire de ma vie, je sais pas en combien de tomes, mais beaucoup, une vingtaine
de tomes,
oui, je crois.
Oui, c'est énorme.
Et quand vous dites, oui, il ouvre une bonne bouteille, etc., j'ai trouvé que finalement il dégageait en fait un bonheur de vivre assez extraordinaire.
Absolument. Un grand appétit de
vie.
Et il a une espèce de santé réelle, sauf à la fin de sa vie. Mais il a une santé, il a quelque chose d'athlétique. Et il aborde la vie en athlète, à la fois dans ses relations avec les femmes, dans ses voyages. Il marche beaucoup, il s'embarque. Il dévore la vie, dirait-on,
oui,
aujourd'hui.
Alors, on a l'impression qu'il tient ça de sa mère, hein, parce que Zanetta avait l'air ainsi.
Voilà. Zanetta, sa mère, comédienne, parcourait aussi l'Europe, et c'était des santés. À cette époque-là, les artistes se déplaçaient énormément,
oui,
toujours à la recherche d'un mécène,
oui,
d'un contrat.
Et pourtant avec des moyens de transport aléatoires.
Oui, mais on voyage énormément à cette époque.
Alors là, quand vous le faites rencontrer, il est exilé, et le pauvre malheureux, ce n'est plus Venise, c'est loin, c'est à Dux. Alors Dux se trouve en Bohême.
Voilà, dans l'actuelle Tchéquie. Donc
c'est pas le même climat,
ancienne
hein,
Tchécoslovaquie. Bien sûr, c'est pas du tout le même climat. Surtout, ça n'est pas du tout la même atmosphère, puisque il est tout heureux au départ. Il avait trouvé cet emploi de bibliothécaire via
des relations.
Voilà, à travers des relations. Donc il se croyait à l'abri du besoin et finalement ayant du temps pour écrire. Et finalement, il va se trouver très mal la fois de par le climat. En même temps, par
château sinistre,
enfin pour l'Italien qu'il est, ouais. et puis surtout, il se trouve en butte aux moqueries des domestiques.
Décrit des domestiques saxons insolents et grossiers. Hein,
voilà.
C'est ça. Et puis, le comte Waldstein lui-même paraît assez capricieux, superficiel, un chien fou, dit-il.
Voilà.
Oui.
Tout à fait.
Alors, c'est très intéressant aussi de voir quand même qu'il a conservé son humour à bien des moments. À bien des moments, d'ailleurs, vous nous faites sourire parce que je regarde ce qu'il dit. Et en particulier quand il discute avec un ami, le prince de Ligne, qui est toute finesse, lui. Mon ami m'a dit un jour, le prince, nous voilà chassés de nos terres par les idées auxquelles nous avons contribué. Le sort n'est-il pas d'une incroyable ironie? Et voilà qu'il répond, il le dit en latin, mais je vais le dire tout de suite. Voilà ce que répond Casanova. On est toujours l'artisan de son propre malheur. Alors, même réponse t'a fait rire. Ah, Giacomo, que vous êtes drôle. Rien à voir avec ces pauvres Anglais, des chiens fous dans leur jeunesse et puis passer la quarantaine, triste à mourir. Que voulez-vous, ai-je ajouté, ne voulant pas être en reste, si l'ironie du sort est mortelle, la nôtre nous aide à demeurer en vie. Et je trouve ça magnifique dans la situation où il se trouve, avoir connu tant de lumière et se retrouver dans ce château froid et austère. Et on apprend donc, il a quand même voyagé parce qu'il a resté, lui, il est resté en contact avec pas mal de monde. Et je crois que ce bonheur de vivre qu'il a en lui fait que les autres n'ont pas envie de couper avec lui, n'ont pas envie de couper les ponts.
Voilà, il continue à correspondre beaucoup avec ses amis. Et effectivement, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la plainte perpétuelle. Dieu sait s'il se plaint à un moment donné, il se plaint des domestiques, de la nourriture, etc. Mais il reste toujours, ce sont des personnages qui sont forts, qui ont du ressort. Et l'ironie également, vous avez cité donc cette phrase, l'ironie lui sert énormément à résister.
Oui, parce qu'il est quand même, il dit les choses et il se rend compte. Par exemple, il dit, moi qui eus tout, gloire, fortune, amour, carrosse, je n'ai plus rien. Bon, mais il n'empêche qu'il va écrire. Lorsque vous lirez mes mémoires, c'est la vie qui vous saisira. Le passé n'est pas une saison morte. La seule question est de savoir le raconter. Moi, je trouve ça formidable.
Ouais. Ben,
il est toujours tourné quand même vers un but.
Toujours. Il lui faut toujours. Il a toujours cette pulsion de vie, même se trouvant en mauvaise posture physique. Il a toujours cette pulsion de vie, cet appétit qui demeure. Et puis n'oublions pas, c'est un joueur. C'est le siècle du jeu et Casanova est le joueur par excellence, puisque c'est lui qui a pour la petite histoire ou la grande, c'est lui qui a créé, qui a inventé la loterie française, la loterie nationale.
Ah bon?
Ah oui, à Paris. C'est lui qui a inventé ça. Voilà.
D'accord.
Ah oui.
Alors, mais tout votre récit, les dialogues sont émaillés de remarques amusantes. Par exemple, Rousseau, ce mouton bêlant et avaricieux, ce triste laudateur de l'onanisme, ce prêcheur, les choses n'en seraient pas là si la France en était tenue à Voltaire. Voilà. Alors bon, et puis il parle également, parce que là, en fait, avec Casanova, nous arrivons à la fin du siècle et il y a eu la Révolution française. Donc avec tous les gens qu'il côtoyait, qui étaient des nobles et qui se trouvaient exilés
ou morts, exécutés. Et c'est la raison également pour laquelle j'ai choisi ces trois personnages constituent un roman. C'est un triptyque, en fait, un roman en forme de triptyque. Et lorsque je vous disais, je parlais de de cette aventure collective. C'est vrai que les deux premiers personnages sont avant la Révolution et le troisième est après la Révolution.
Voilà.
Donc nous sommes dans un pré-basculement de monde et ensuite le monde a basculé. C'est déjà trop tard, on est dans une autre époque.
Oui, alors évidemment pour eux, c'est quand vous dites bascule, c'est vrai que pour eux, tout paraît s'effondrer et on comprend qu'il soit difficile d'envisager l'avenir. Donc il est vraiment dans le passé et il le sait.
Il le sait. Vous savez, je crois que c'est Oscar Wilde qui disait « L'humour, c'est la politesse du désespoir ». Et Casanova et le prince de Ligne, qui est un personnage que j'aime énormément, qui a une grande élégance, une grande finesse et en même temps sûrement une bonté cachée, qu'il cache par pudeur. Voilà, donc tous ces personnages le disent, ils disent notre monde est terminé. Et le prince de Ligne, justement, a une petite astuce que je ne dévoilerai pas vestimentaire pour garder la joie de vivre, la bonne humeur, il brandit ça un petit peu comme un drapeau.
Voilà. Et quand Casanova parle de Venise, Venise, voyez-vous, est bien plus qu'une ville. Comment dire ? Une espèce de songe posé sur l'eau. Un songe fait de pieux, de pierres, de briques. Elle aura résisté à tout, la guerre, l'incendie, la peste, les Ottomans, jusqu'à ce qu'elle succombe devant un petit général français. J'arrête là, parce que petit général français, on a deviné de qui il s'agit. Donc il ne porte pas dans son cœur, bien entendu. En tout cas, il a eu le temps d'écrire l'histoire de ma vie et franchement, Michel Tesser, nous avons envie, moi en ce qui me concerne, j'ai envie de lire l'œuvre de Casanova. Alors Venise, désormais on n'en parlera pas, mais en revanche nous allons faire un petit retour en arrière puisqu'il y a deux autres personnages. Alors Vivaldi que tout le monde connaît. Or, j'ai découvert qu'en fait, il avait eu toute une période d'oubli après sa mort. On n'en parlait plus tellement.
Absolument. Vivaldi est... disons que la tension qu'on a portée à nouveau à la musique de Vivaldi est relativement récente. Il est tombé dans l'oubli et il a fallu que la musique baroque a fait un petit peu avant la redécouverte de la musique baroque vraiment remette à l'honneur Vivaldi puisqu'il a eu vraiment en particulier avec la période romantique tout un oubli total alors que ça a été on a redécouvert ses opéras relativement récemment de magnifiques pièces pour violoncelle occultes aussi par le succès des Quatre Saisons et autres grandes pièces ou messes plus connues. Voilà, donc effectivement Vivaldi a été une star comme vous disiez au début de l'émission et puis ensuite il a sombré dans l'oubli.
Dans l'oubli total. Voilà. Alors évidemment lui aussi une personnalité, un rouquin, on l'appelait le prêtre roux, enfin il appartenait à une famille de rouquins, prêtre, et on dit parce qu'il était, il a été ordonné prêtre pour raison de santé, alors bon c'est assez drôle comme explication, finalement prêtre mais surtout musicien, surtout homme de Venise, hein, pas tellement finalement tourné vers la religion, on n'a pas cette impression, mais sans doute à la fin de sa vie davantage, peut-être
Disons qu'il est... Les sources, puisque je me suis documentée, j'ai énormément travaillé la documentation, et en particulier des documentations périphériques, des regards sur ces personnages. Puisque pour Vivaldi, hormis sa musique, on a très peu de documents, contrairement à Casanova. Donc il y a des petites anecdotes comme ça, disant qu'il était de santé fragile, qu'il toussait, qu'il avait peut-être de l'asthme, on ne sait pas.
Alors,
voilà.
Une réflexion de sa part, parce que lui aussi ne manque pas d'humour, excusez-moi, je vous interromps. N'ayant jamais été tout à fait bien portant, je n'ai jamais été tout à fait malade.
Voilà.
Oui, un fragile, ben de l'asthme peut-être.
Peut-être,
oui,
on
regardez
si
Proust, des gens qui sont quand même très, très, des artistes dans l'âme, des gens hypersensibles probablement. Donc, il a un parcours assez étonnant parce que, donc, il a donné des leçons à la Pietà.
Il a été très connu à partir de ce moment-là, puisque la Pietà était un hospice, un refuge pour les enfants abandonnés, en particulier les filles. Et les plus douées, celles chez qui on décelait un réel talent musical, soit pour le chant, soit pour l'interprétation instrumentale, faisait partie de l'orchestre de la Pietà. Les gens accouraient de l'Europe entière pour écouter ces jeunes femmes qui étaient des interprètes excellentes. Donc il est devenu professeur à la
Pietà.
Et qu'on ne voyait pas.
Voilà. Elles étaient derrière un...
Elles étaient, pour, dit-on, protéger leur vertu, elles étaient derrière une grille, ouais. Mais elles donnaient des concerts publics sur invitation. Hein, c'était tout dans un cercle restreint.
Très couru.
Aller, c'était aller à un concert de la Pietà, c'était comme aujourd'hui, aller à la Fenice ou au Carnegie Hall. Donc c'était extrêmement couru.
Alors, il avait appris le violon auprès de son père. Mmh. Il a été très vite admis à la chapelle ducale. Bon, en fait, il baigne dans un milieu musical, mais il n'exercera pas vraiment son ministère.
Alors, on parlait de la santé. C'est une opinion tout à fait personnelle, mais je pense qu'il devait prétexter sa santé fragile pour s'exonérer, disons, de son métier, entre guillemets, de prêtre. Oui. Il faut voir qu'au 18e en particulier, tout le monde, dès qu'on faisait pour faire des études supérieures, il n'y avait guère que le clergé. Si bien que Casanova lui-même était abbé. Il fait d'ailleurs mention à ses débuts qui sont catastrophiques. Oui. Voilà. Donc ça n'est pas du tout lié à une vocation ni à un ministère ensuite. D'accord. Donc il était prêtre effectivement, mais dit-on il était également très bigot. Alors ça devait être un mélange de très curieux. C'est pour ça la raison pour laquelle le personnage m'a intéressée. Voilà, on ne sait pas. Donc des petites manies, mais en même temps un personnage tout à fait dans l'époque, flamboyant et.
Michel Tesser, je vous propose une pause musicale et nous reprendrons ensuite notre entretien au sujet de Loin de Venise.
Parole d'auteur Monique Fauché.
Voilà, nous reprenons notre entretien avec Michel Tesser pour parler de son ouvrage Loin de Venise avec une évocation de Vivaldi, de Rosalba et de Casanova, ouvrage édité chez Serge Safran. Alors Michel Tesser, nous parlions de Vivaldi. Vivaldi donc a été quand même très très apprécié, même adulé à une époque. Il a eu vraiment beaucoup de succès, lui aussi.
Énormément de succès, ses opéras, puisque il était très connu pour ses opéras. On le connaît, disons, un petit peu moins encore que les opéras, on redécouvre les opéras. Mais vraiment, c'était même un impresario, puisque il était à la fois, il composait très vite, beaucoup d'opéras, c'était vraiment des spectacles. Et il composait très vite, il donnait ses opéras à Venise, mais aussi dans d'autres villes. C'est lui qui engageait les interprètes. Il avait à la fois donc une activité de compositeur, d'inventeur et de gestionnaire également, d'impresario. Oui.
Là, j'avais noté qu'il y avait, paraît-il, plus de 800 opus à son actif. Il a écrit énormément de musique religieuse, des opéras, ce que vous disiez, des symphonies, des sonates, des concertos. Et Alors, il a rencontré Anna Giraud. Vous pouvez me dire un mot de cette Anna Giraud dont il rêve? C'est finalement sa muse,
voilà.
Oui.
Alors, Anna Giraud est un personnage aussi mystérieux dont on ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'elle était jeune, beaucoup plus jeune que Vivaldi, au dire de ses contemporains, qu'elle n'avait pas une voix extraordinaire, que ce n'était pas une interprète extraordinaire, mais qu'elle avait une présence scénique, on dirait aujourd'hui, qu'elle avait une présence sur scène extraordinaire. Cette Anna Giraud est d'origine française, puisque c'est l'italianisation du nom Giraud, R-A-U-D, et elle est donc fille également d'un perruquier, comme Vivaldi.
J'ai l'impression qu'elle avait de l'aplomb.
Voilà, elle avait sûrement de l'aplomb. Alors là, évidemment, tout romancier écrit, lorsqu'on écrit dans le domaine de l'histoire, on écrit justement dans tout ce qui est manquant, hein, dans les zones d'ombre ou les zones qu'on ne connaît pas. Donc j'ai tenté de reconstituer un petit peu ce personnage à travers ce qu'on pouvait en dire, à travers voilà, apparemment c'est quelqu'un qui a du tempérament et de la présence.
Voilà, et qui éclairait sans doute la vie de Vivaldi, mais ils ne vivaient pas ensemble, c'est ce que...
Ils ne vivaient pas ensemble, encore que il est fait mention... Disons que Vivaldi et sa famille parcouraient aussi les routes d'Europe, hein, puisque Vivaldi et son père, c'était un petit peu Mozart et Léopold Mozart. Hein, c'était des entreprises familiales. Donc ils vivaient tous un petit peu ensemble et à un moment donné, il est fait mention au scandale de cette cohabitation entre Vivaldi, Anna Giraud et sa sœur. En fait, c'était
la sœur qui était bien plus âgée.
Plus âgée qu'Anna, tout ça cohabitait et donc on jasait.
Bon, voilà. Alors là, il est loin de tout cela, il est donc dans son château en Bohême, son château sombre, et il dit à un moment donné quelque chose de très beau. Pour moi, tout est musique. L'entourage, les pas de quelqu'un, bah, ça lui fait penser au bois, par exemple, le canari. Hein, tout est, finalement, tout est musique, et il crée encore, sa tête en tout cas, il crée encore de la musique.
Alors là, effectivement, il est totalement isolé. Là, il est à Vienne, il est en Autriche. On ne sait pas d'ailleurs, grand mystère, pourquoi il est parti. Il a coupé les ponts, il est parti. Et là, effectivement, comme Casanova qui a une boulimie de la vie, Vivaldi a une boulimie de l'écriture musicale. Il est sans arrêt, et là les témoignages l'affirment, il était sans arrêt avec des petits papiers, et il est toujours en train de noter, de griffonner, voilà.
Oui. Oui, et alors en particulier, à un moment donné, oui, il fait intervenir quelqu'un, vous faites intervenir, pardon, quelqu'un que nous connaissons tous, c'est Goldoni, parce que évidemment ses pièces se sont toujours jouées. Donc il était librettiste aussi.
Il est devenu librettiste de Goldoni. Tout ce petit monde, finalement, est assez resserré. Comme aujourd'hui, on voit les metteurs en scène et des auteurs et des musiciens qui collaborent. Voilà, c'était le petit monde artistique vénitien et européen aussi. Hein, voilà.
Oui. Il n'a pas décroché tout à l'heure. Je disais qu'en fait, il était toujours dans la musique. Il fait parler son canari. Rappelle-toi, monsieur Surfifi, vos voyages en carrosse sur les routes de Saxe, de Bohême, d'Autriche. Ah, si je me souviens, le vacarme des roues, les haltes des auberges, baquets d'eau fumante, etc. Alors, tes modèles sont là, fais-les vivre, invente quelque chose de neuf. Tu as raison, Padrodite. Des prestons enlevés, des allegro vivaces, des troublants adagio. Rien que du mouvement, cet opéra ne ressemblera à aucun autre. Maestro Vivaldi va vous étonner. Il ne décroche pas, il n'a pas envie de décrocher.
Non, pas voilà. Du tout. Pas du tout.
Voilà, et effectivement, on se dit que le fait d'être oublié, d'être relégué au fin fond d'un château, loin des fastes, des merveilles de Venise, loin des éclairages de Venise, ça peut être dur, mais en même temps, ce qu'il y a, c'est que même à son dernier souffle, il a envie d'exister.
Oui, ce sont ces trois personnages. J'ai choisi ces trois personnages parce que, à mon sens, ce sont des personnages vivants, toujours vivants.
Oui, c'est ça.
Et des personnages qui résistent. C'est la vie qui résiste à eux, et c'est le meilleur de la vie, c'est-à-dire le flux créatif qui résiste et qui continue de s'exprimer à travers eux, même, comme vous le disiez, jusqu'au dernier souffle. C'est toujours le souffle de la vie.
Oui. Et oui, et puis il s'impatiente même, parce que l'âge l'a saisi, mais il dit « ma main est plus lente que mon cerveau ». Bon, voilà. Il est très lucide aussi. En tout cas, voilà, encore une très belle page. Et nous arrivons au personnage féminin, Rosalba Carrera. Alors, je dois vous dire que du coup, je suis allée me documenter, parce que je me disais « oh là là, quelle horreur, je ne suis pas omnisciente, loin de là ». Mais la Rosalba, donc, c'était quand même quelqu'un de très connu à cette époque-là, et probablement de gens connus encore de certains spécialistes. Qui est-elle, donc ?
Alors, Rosalba Carrera a été la plus grande portraitiste d'Italie et même d'Europe. Et elle s'est fait connaître par, certes, la vivacité de ses portraits, qui sont extraordinaires de justesse et de... Vraiment, ils sont saisis sur le vif et chaque fois, avec on sent la psychologie du personnage, et c'est très troublant. La facture est merveilleuse, à la fois ferme et douce. Et elle est connue du fait qu'elle a donné au pastel, à la technique du pastel, ses lettres de noblesse. Puisque, traditionnellement, c'est la peinture à l'huile qui sert à portraiturer les gens et les grands personnages. Puisque le portrait, évidemment, ce ne sont que des portraits d'aristocrates ou de... oui, d'aristocrates, encore au 18e. Et là... puisque elle Venise encore une fois, et c'est là qu'on retrouve le collectif aussi, l'aventure collective. Venise au 18e, c'est la ville du tourisme, mais d'un tourisme de luxe.
Oui.
Voilà. Donc on vient à Venise. Les Anglais en particulier sont friands de cartes postales. Ça sera les vues. Hein. Donc on aura tous les grands noms comme Canaletto, comme Guardi, qui vont peindre des paysages vénitiens. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs tous ces tableaux se trouvent à 99% en Angleterre. Et on va s'adresser à Rosalba Carrera, qui très vite va... le bouche à oreille va fonctionner. Et on va se faire tirer le portrait souvenir à Venise, par Rosalba Carrera.
Ou lui acheter une tabatière.
Voilà. Alors, au départ, elle commence très humblement. Elle commence par de la peinture décorative. Vraiment des souvenirs de voyage. Alors, des tabatières décorées en porcelaine, des petits médaillons, des camées, vous voyez, décorées. Là, c'est vraiment de la peinture alimentaire.
Et c'est un travail un peu familial.
Et c'est un travail familial. Un petit peu comme pour Vivaldi aussi. Ce sont des entreprises familiales. Les peintres aussi travaillent en famille, puisque on a le fils d'eux qui va continuer la carrière du père.
En vous écoutant, ça me fait rire, parce que je me dis que dans le fond, c'est quand même quelque chose qui s'est perpétué même à l'heure actuelle en Italie.
Oui.
Un travail familial, comme
tout
ça.
À fait. Hein,
des
tout
entreprises
à fait.
Familiales.
Tout à fait. Ça n'est pas le lien. Ça continue.
Oui.
Ça continue.
Oui.
Et donc Rosalba est née dans ce terreau familial apparemment joyeux, mais de très moyen. Hein. Elle n'a rien d'aristocratique. Sa mère brode, fait de la dentelle. Donc elles ont une habileté et elle va se distinguer. Donc elle va faire des portraits de grands personnages, elle va avoir des mécènes en France en particulier, se lier avec un certain Mariette qui est très connu, qui est un collectionneur, et Mariette, Croza, qui sont des Français et qui sont de grands mécènes, hein, l'équivalent des grands mécènes actuels, et elle va être à ce point connue qu'elle va être invitée à Paris, elle va y résider quelques mois et elle va faire plusieurs portraits de Louis XV, enfant. Elle va rencontrer les grands peintres français du temps et elle va devenir la coqueluche de Paris et le pastel va vraiment devenir à la mode.
Incontournable.
Incontournable. Et c'est en particulier Quentin de la Tour fera le grand portrait de Louis XV adulte alors au pastel. Suite à la rencontre avec...
Elle était quand même un petit peu aidée, non, par son beau-frère, parce que moi je vois quand même qu'elle avait gardé des liens, mais vous nous en parlez, il est déjà mort, mais Antonio Pellegrini était également peintre.
Voilà, très connu puisqu'il a décoré le plafond de la Banque Royale qui est devenue la Banque de France. C'était un peintre très connu au départ, bien plus connu que Rosalba. Oui. Il a décoré le château de Windsor en Angleterre. Donc elle a baigné malgré tout dans cette atmosphère de peinture après le mariage de sa sœur aînée.
Alors sa sœur Giovanna, elle en parle à plusieurs reprises, elle en rêve, et d'ailleurs on pourrait dire aussi que dans votre ouvrage, on aura le temps d'en parler, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a à la fois la réalité, il y a l'évocation, le souvenir, le rêve, parfois des hallucinations même un petit peu, et là, quand elle parle de Giovanna, on sent quand même que c'est une perte dont elle souffre encore.
Voilà, ça je l'ai ressenti à travers ces rares courriers, enfin ces rares lettres qu'on a conservées, il y a quelques lettres en italien, bien sûr. Et on voit la douleur de cette perte, cette sœur qu'elle aimait beaucoup, qui était son aide, qui lui préparait ses couleurs. On sent une tendresse énorme. Elles ne se sont pas quittées, elle n'a pas quitté non plus sa sœur aînée après son veuvage.
Avec qui les relations sont peut-être un peu plus délicates.
Voilà, plus...
Mais alors justement, parlez-nous de son caractère tel qu'il est au moment où vous l'avez brossé, ce portrait.
Alors, c'est un personnage en colère. Et là, j'ai déduit sa colère de ce que je voyais, puisqu'elle a réalisé, c'est très intéressant, elle a réalisé plusieurs autoportraits à divers âges de sa vie. Alors, on la voit jeune, élégante, séduisante. On la voit à un âge... moyen, élégante toujours. On sent que vraiment elle a fait fortune. Elle est dans la fourrure. Et puis ensuite on la voit, et notamment dans le dernier portrait, qui est un portrait tragique. Elle est couronnée de lauriers. On voit que son œil est très abîmé, et elle a un pli amer à la bouche et un regard de colère. On sent qu'il y a une révolte en elle contre son destin, contre révolte qui va se traduire par sa mauvaise humeur vis-à-vis de l'entourage et de sa sœur.
Voilà. Alors justement, avant de parler de cette révolte qui l'affecte, j'ai noté une phrase d'un prêtre ou d'un nonce qui lui dit que finalement elle est bonne parce que elle peint d'une manière bienveillante les gens, sauf elle-même, dit-il. Je résume, j'ai pas repris le texte in extenso, et il trouve que à son propre égard, elle est très sévère. Voilà, donc, l'explication quand même, cette amertume qu'elle a, cette souffrance, elle dit la tristesse et la rage ont verrouillé mon cœur, on sait quand même en grande partie à quoi c'est dû, qu'est-ce qui va se passer.
Alors, elle a eu le destin qui est le plus tragique pour un peintre, c'est-à-dire qu'elle a perdu la vue. Elle a perdu la vue progressivement. Elle a tenté une opération et c'est allé de mal en pis, si bien qu'elle a achevé sa vie totalement aveugle.
En fait, elle avait une cataracte.
Elle avait une cataracte
à une époque où...
Et l'opération a mal tourné. Et on opérait de la cataracte plus ou moins bien. Et chez elle, ça a mal tourné, si bien qu'elle est devenue complètement aveugle. Et ce qui est encore plus tragique, c'est qu'elle a vécu longtemps.
Oui, elle a enterré toute sa famille.
Elle a enterré toute sa famille. Oui. Et elle a vécu longtemps dans le noir absolu. Oui.
Elle dit « L'enfer, je le vis sur terre ».
Voilà. Oui. Oui. Oui.
Alors, évidemment, elle a un caractère entier, elle a connu la gloire, on est venu la supplier de peindre, etc. Elle avait tout le monde à ses pieds, et puis tout d'un coup, c'est l'inactivité, l'oubli. et un franc-parler qui éloigne pas mal de visiteurs.
Voilà. Elle a un caractère bien trempé. Ça, disons que ça passait lorsqu'elle était en pleine gloire, lorsqu'elle était, vous savez, les caprices de star, ça plaît bien au public aussi. Hein.
Oui.
Donc, on lui pardonnait plus aisément. Mais là, elle fait le vide autour d'elle. Elle a perdu sa séduction, elle a perdu son art, et donc sa colère, qui vient de sa douleur. Hein. Lorsqu'on est dans la douleur, souvent, on n'est pas agréable avec les autres. Hein. Je crois que pour être agréable, il faut être heureux déjà, être bien en soi.
Évidemment. Et il y a quelque chose d'émouvant, c'est que malgré tout, elle utilise des pastels encore, voilà. Même sans voir.
Là, c'est une invention, une licence, parce que
oui,
pourquoi on ne sait pas. Mais disons que c'était assez vraisemblable, peut-être cette riposte, cette ultime riposte de la vie en elle, et de l'art et de l'envie de créer, comme les deux autres personnages, elle va inventer quelque chose. Voilà.
Alors, dans votre ouvrage, nous trouvons la réalité des situations, que ce soit les situations de Venise, la situation de l'Europe, puisqu'il y a la Révolution en France en particulier, donc beaucoup de nobles réfugiés en Angleterre ou ailleurs. Il y a la mémoire de chacun de ces trois personnages, leurs songes, leurs rêves, parfois, je disais, leurs hallucinations. Et ça donne à votre récit un aspect intimiste, mais aussi la peinture de toute une société qui est en décomposition finalement, hein, qui sait que vraiment les temps vont définitivement changer pour eux.
Voilà, ce qui lie ces trois personnages, hormis leur destin, c'est leur grande lucidité.
Oui.
Et je crois que leur lucidité fait qu'ils ne sont jamais dans la complaisance, dans l'autocomplaisance, qu'ils ne sont jamais dans la plainte absolue.
Absolument.
Et qu'ils ont toujours... Ils terminent leur vie debout, si on peut
dignement.
Dire. Dignement. Dignement,
oui.
Voilà.
Des êtres forts.
Et avec de l'humour, oui. Et avec un petit peu un pied de nez,
oui.
Toujours.
En tout cas, Michel Cessert, un grand merci. Je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit de Loin de Venise, Vivaldi, Rosalba, Casanova, voilà les personnages que nous trouvons dans votre ouvrage, et Venise, et le souvenir de Venise. C'est paru aux éditions Serge Safran. Un grand merci.
Merci. Merci.